Exactement 8h, vous êtes sur Radio Classique.
7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et avec Virginie Fulpin pour le journal.
Des enfants qui préfèrent mourir pour mettre fin au cauchemar, l'UNICEF rapporte des témoignages terrifiants de Gaza. Vers une réduction de la durée d'indemnisation des chômeurs pour que les Français travaillent plus, donc cotisent plus, donc réduisent le déficit, d'après Gabriel Attal. Et puis un chiffre, 7135, c'est le nombre d'adultes qui vont se faire baptiser en ce week-end de Pâques.
Après le journal, l'éditorial de Guillaume Tabar qui revient sur le départ du proviseur du lycée Maurice Ravel, suivi de l'invité de la matinale, la tête chercheuse de l'école des hautes études et en sciences sociales, Asma Mala. Elle vous explique comment la technologie embrigade désormais les esprits. Cette professeure à Polytechnique et Columbia publie Technopolitique. La guerre continue et la famine s'étend à Gaza.
Je préfère être tué pour mettre fin à ce cauchemar. Voilà le genre de phrase que prononcent de jeunes Gazaouis qui survivent entre bombardements et famine dans le territoire. Les premiers cas de décès liés à la malnutrition ont été signalés il y a 2 semaines et la situation s'aggrave dans le nord de la bande de Gaza. L'UNICEF voit désormais 1 enfant sur 3 en situation de malnutrition sévère. C'est ce que rapporte Jonathan Crix, le porte-parole de l'UNICEF Palestine.
Nos équipes qui sont allées dans le nord ont vu des dizaines d'enfants qui portaient leurs mains à leur bouche pour demander juste de la nourriture. Un jeune garçon, Youssef, il a 13 ans. Sa journée consiste à essayer de trouver un peu d'eau, un peu de farine pour faire du pain. Et il explique aussi qu'il ramasse de l'herbe pour se nourrir et pour nourrir sa famille. C'est tout à fait tristement logique que de plus en plus d'enfants meurent de faim, meurent de déshydratation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants qui sont peut-être pas dans une situation aussi critique, la malnutrition sévère a un impact sur la croissance de l'enfant, le développement cognitif. Ce sont des conséquences pour la vie.
Jonathan Crix avec Marc Tédé. Finalement, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou accepte de discuter avec les Américains de l'opération qu'il entend mener à Rafah, au sud de Gaza. Le Premier ministre israélien avait d'abord annulé des discussions quand les États-Unis se sont abstenus. C'était lors du vote de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur un cessez-le-feu.
Gabriel Attal annonce une réforme de l'assurance chômage cette année.
Une réforme globale, dit-il. Ça se traduit comment ? Par une période d'indemnisation réduite de plusieurs mois, en gros passée de 18 à 12 mois. Rien de choquant pour Éric Chevel, vice-président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises.
À la CPME, nous ne sommes pas choqués avec l'idée de réduire la durée d'assurance, puisque c'est la position que nous maintenons depuis plusieurs années. Pour nous, le régime de l'assurance chômage doit être un vrai régime assurantiel, c'est-à-dire qu'il assure bien, il délivre une bonne allocation pendant une durée limitée, puisque l'objectif quand même de l'assurance chômage, c'est de maintenir le niveau de vie pendant la recherche d'un emploi qui doit être facilitée au maximum. Quant à la durée pendant laquelle il faut cotiser avant de pouvoir bénéficier du régime d'assurance chômage, c'est vrai que nous sommes là encore très très protecteurs en France.
Des propos recueillis par Zoé Pallier. Aujourd'hui, il faut avoir travaillé 6 mois pour bénéficier du chômage. La durée pourrait donc être allongée. En revanche, a priori, pas de changement dans le niveau d'indemnisation. Gabriel Attal a demandé à sa ministre du Travail de préparer de nouvelles négociations sur l'assurance chômage. Alors derrière cette réforme de l'assurance chômage, un espoir que les Français travaillent plus, donc cotisent plus, donc que le déficit public se réduise. Le but du gouvernement reste de revenir à un déficit de 3% du PIB maximum en 2025. Contre 5,5% en 2023. Est-ce que c'est possible ? Il en faudra plus pour convaincre l'agence de notation Moody's. Elle juge improbable cet objectif. Mais non, tout ne va pas mal. Regardez, l'industrie française reprend des couleurs. En 2023, la France a enregistré 201 ouvertures de sites industriels. C'est l'agroalimentaire qui est le plus dynamique devant l'économie verte et circulaire. La tendance est bonne, mais il reste encore des points à améliorer, Eric Kuch.
La France attire les usines, surtout en région Auvergne-Rhône-Alpes et en Aquitaine. Ces deux territoires représentent plus de la moitié des créations de sites en 2023. Les Hauts-de-France aussi sont porteurs de promesses avec les futures gigafactories de batteries électriques. Un dynamisme à relativiser, nuance David Kousker, fondateur de Trendéo, Observatoire de l'industrie.
Certains secteurs qui sont fortement et durablement impactés par les prix de l'énergie tirent un peu la langue. Il y a des restructurations dans l'automobile. Donc on a effectivement une cohabitation entre des secteurs qui vont bien bien et des secteurs qui commencent à avoir des difficultés plus marquées.
Et si la France voit un bond du nombre d'usines, elles sont généralement de taille modeste.
Sur les sites industriels de grande taille, on n'a pas du tout le nombre de projets qu'on devrait avoir par rapport à la taille de notre économie en France.
En cause, les lourdeurs administratives, explique Alois Kirchner de l'Institut Montaigne.
On se souvient de la décision de Tesla d'implanter sa gigafactory en banlieue de Berlin. La France était dans la compétition. C'est que les Allemands ont proposé à Elon Musk de commencer à construire son usine avant d'avoir reçu le permis de construire.
Même défaut face à la Chine et face aux États-Unis. L'Inflation Reduction Act y attire les investisseurs à coups de subventions et d'avantages fiscaux. Le territoire américain capte aujourd'hui un projet sur cinq dans le monde.
Éric Koch pour Radio Classique.
Et puis sur les signes d'amélioration probable de l'économie française, je vous invite à écouter ou réécouter la chronique, l'éditorial d'Étienne Lefebvre avec Les Échos. Celui du jour, vous allez sur radioclassique.fr. Il y a des raisons d'espérer. Gabriel Attal apporte son soutien au proviseur qui a dû quitter ses fonctions après avoir été menacé.
Le Premier ministre a reçu le proviseur du lycée Maurice Ravel pendant une heure hier à Matignon. Proviseur qui avait demandé à une élève de retirer son voile dans l'établissement et il a reçu des menaces de mort. Finalement, il a préféré quitter ses fonctions pour sa sécurité et celle du lycée. Gabriel Attal lui apporte son soutien.
Le proviseur du lycée Ravel a tout simplement fait son travail. Il a demandé à une jeune femme d'appliquer la loi, c'est-à-dire de retirer son voile dans l'établissement scolaire. Elle a cherché à l'intimider en l'accusant de l'avoir molestée ou de violence. Ces accusations qui ont ensuite été relayées sur les réseaux sociaux ont donné lieu à des menaces de mort à l'endroit de ce proviseur. C'est tout simplement inacceptable et inadmissible. Moi, je me suis toujours engagé pour mettre fin à ce qu'on appelle le pas de vague.
L'État va porter plainte contre l'élève qui a fait cette dénonciation calomnieuse. Cette affaire met la communauté enseignante en émoi, forcément, même si certains regrettent que cette démission envoie un mauvais message. Yannis Roder, professeur d'histoire et membre du Conseil des sages de la laïcité, est très amer.
On en arrive aujourd'hui à des extrémités incroyables, c'est-à-dire qu'on menace de mort et des gens risquent leur vie, tout simplement parce qu'ils enseignent, ils font respecter la loi de la République au sein de l'école. Le fait que le proviseur se retire, envoie un message terrible, c'est-à-dire, voilà, vous pouvez menacer la République va reculer, la République va céder. Ce proviseur qui a fait son métier toute sa vie se retrouve aujourd'hui à quelques mois de la retraite, acculé à la démission, ou plutôt à la mise en retrait, pour protéger simplement sa vie. C'est complètement dingue. À un moment donné, il va falloir que des politiques prennent des décisions courageuses.
Yannis Roder avec Charles Ducrot.
Et puis à 8h10, Guillaume Tabar reviendra sur cette affaire du pas de vague dans son éditorial avec Le Figaro.
Que faites-vous pour le week-end de Pâques
Je
qui
vais
arrive
marcher en forêt.
Très bien. En tout cas, vous avez...
Vous posez la question, je vous réponds.
Et oui, ça me paraît tout à fait normal. Donc, vous ne faites pas la même chose que 7135 adultes qui, eux, savent exactement ce qu'ils vont faire, se faire baptiser. C'est 30% de plus que l'an dernier, des jeunes et des adultes qui n'ont pas été élevés dans la religion, Héloïse Weiss.
Son cheminement, Jean-Yves Lépine l'a consacré par un baptême il y a un an. Marié à une pratiquante, ce cadre de 58 ans fréquente l'église, commence à s'intéresser au texte et finit par se décider à faire son catéchuménat.
Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. C'est des éléments dont on se rend compte grâce à la foi que c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus porteur de sens que réussir sa vie parce qu'on a une belle maison, qu'on s'est acheté une grosse voiture. Pour moi, entre un Donald Trump ou une mère Teresa, je sais bien qui a réussi sa vie. La réalité de l'humanité au sens très large du terme, elle est dans le être et pas dans le avoir.
Des valeurs que partagent les adultes qui se baptisent aujourd'hui. Leur nombre augmente depuis la fin du Covid, observe Catherine Chevalier. Elle est directrice du catéchuménat à la Conférence des évêques de France.
L'effet après Covid, si ce n'est pas un rattrapage, a quand même eu un effet de questionnement des personnes. Questionnement sur le sens de la vie et de la mort, questionnement existentiel, tout ce qui est engagement au service des personnes, de solidarité, de fraternité, une envie aussi de sortir d'une forme de solitude. L'aspect communauté de l'Église répond aussi à ça.
Cette quête de sens s'observe aussi chez les adolescents. Ils seront au moins 5000 à être baptisés ce week-end contre près de 3000 l'année dernière.
Alors, baptême ou balade en forêt comme David, on vous souhaite par avance de joyeuses Pâques.
Et d'en profiter. Merci Virginie, je vous dis à demain. À suivre l'éditorial de Guillaume Tabar avec Le Figaro, le départ du proviseur du lycée Maurice Ravel. Sonne-t-il la victoire du pas de vague, Guillaume Attal, Guillaume Tabar nous le dira. Juste après, Asma Mala, chercheuse au CNRS et à l'École des hautes études en sciences sociales, vous explique comment la technologie sert désormais à nous embrigader, voire à nous monter les uns contre les autres. Bonjour Guillaume, vous êtes déjà en studio. Je vous ai appelé Guillaume Attal, je suis désolé.
Je prends comme un compliment.
Allez, lui...